97. Le son de la pop à Moissac, CFM 97.
CFM, c'est à qui le tour avec Paul Burgan.
Voilà, qui était déjà venu nous présenter Toponymie du Tarn-et-Garonne. On l'a dit en début d'émission, il y a maintenant 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. En 2006, en fait. Hein.
2006, quand 2006. La première édition est parue.
Voilà. C'était déjà un ouvrage qui se voulait exhaustif à l'époque, Paul Burgan.
Oui, mais bien sûr. Enfin, c'est-à-dire, c'est le premier ouvrage qui avait fait l'étude des toponymes du département, avec toute la précision et les méthodes habituellement utilisées dans ce type d'étude, quoi. Et c'était la première fois, puisque jusque-là, les seuls ouvrages qui traitaient de ce problème étaient des ouvrages nationaux, c'est-à-dire faits très loin, hein, à Paris ou à Toulouse parfois, qui traitaient de 38 000 communes, c'est-à-dire qui n'accordaient qu'une demi-ligne à chacune d'entre elles, et encore même pas parfois, et qui ne s'appuyaient pas sur une étude très complète, puisque c'était matériellement impossible de travailler sur 38 000 communes, bien entendu, même en y passant beaucoup de temps. Donc c'est la première fois qu'on s'était penché sur cette question avec plus de précision. Nous avions passé 5 ans pour faire cet ouvrage et nous avions exploré à peu près tous les domaines qui sont explorés habituellement dans cette affaire-là, c'est-à-dire les formes anciennes, ce qui s'étale sur à peu près 1000 ans, la géographie, l'histoire locale, la tradition orale qui est arrivée jusqu'à nous. Tout ça avait été exploré de la manière la plus précise possible et ça avait donné cet ouvrage. Mais en toponymie, rien n'est jamais fini, parce que pour aussi précis que l'on soit, on ne peut jamais revenir exactement à la situation qui était celle des gens qui ont choisi le mot quand ils l'ont choisi, c'est-à-dire il y a 1500, 2000 ans. Ouais. On n'a pas assez d'informations là-dessus pour pouvoir tout savoir de manière absolue. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des choses qui nous échappent.
Donc vous avez creusé un petit peu plus, d'où la mise à jour finalement.
Voilà, exactement. Enfin bon, nous sommes aperçus d'abord que quelques petites erreurs avaient été faites, mais surtout il y a des informations qui nous sont arrivées de la part de lecteurs, quelques-unes. Il y a des ouvrages qui ont paru entre-temps sur le département et qui nous ont permis de préciser un certain nombre de choses. Et il y a eu surtout une critique qui a été faite en 2008 dans la revue internationale d'onomastique, hein, qui s'appelle la Nouvelle Revue d'onomastique, qui est une revue faite par des chercheurs et des universitaires de tous les pays d'Europe et même au-delà parfois, et faite pour eux d'ailleurs, parce que c'est très compliqué, c'est très précis. Et nous avions bénéficié d'une critique d'ailleurs élogieuse dans cette revue, et à côté de la critique, bien entendu, il y avait un certain nombre de propositions nouvelles, de modifications qui étaient proposées, d'hypothèses nouvelles, et nous avons pris tout cela en compte pour l'intégrer dans cette deuxième édition. Ce qui fait qu'il y a des additifs et des corrections qui sont proportionnellement très très réduites en masse, si vous voulez, mais ouais, qui sont quand même assez nombreuses dans le détail, puisque ça a fait l'objet d'une petite brochure qui fait 8 pages. Et que nous proposerons pour les gens qui ont la première édition, de façon à ce qu'ils ne soient pas pénalisés, ils pourront, grâce à cette petite brochure, pouvoir compléter eux-mêmes leur livre sans se trouver en déficit par rapport à la deuxième édition.
Alors, voilà. Vous dites « nous » depuis le début, hein, Paul Burgan, donc vous n'êtes pas tout seul pour cet ouvrage.
Non, nous travaillons à deux, et heureusement, parce que si j'avais travaillé tout seul, il m'aurait fallu 2 fois plus de temps, ce qui fait qu'il ne serait pas encore fini. Oui, nous travaillons à deux parce que les recherches sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement lourdes, hein, très. Il y a énormément de choses à explorer, les documents anciens en particulier, ça fait des centaines de milliers de pages. Bon, évidemment, si on est deux, on va 2 fois plus vite. Aller voir tous les sites, il y en a quand même 500, plus de 500 dans le département. Bon, faut y aller aussi.
Parce qu'à chaque fois, vous vous déplacez sur
nous sommes
sur
allés
site,
voir,
hein,
nous
vous
sommes
allés géographiquement,
voir tout,
vous
oui,
bougez,
nous sommes allés voir tous les sites. Ben, oui, ça fait partie de la méthode, il faut voir comment ça se présente. Sinon, évidemment, on passe à côté quelquefois de certaines choses. Alors, nous sommes allés tous les deux voir tous les sites, mais à tous les deux, nous les avons tous vus.
Ça fait 200 sites
chacun. Oui, ça. Là, en réalité, moi, j'ai beaucoup plus travaillé sur l'élaboration du texte et sur les problèmes linguistiques. Et André Lafont a fait beaucoup de recherches sur les documents et a fait un peu plus que moi de recherches d'ordre géographique, effectivement. Une répartition qui correspond un peu à la fois à nos voeux et à nos compétences, quoi.
D'accord.
Voilà.
Combien de temps, vous avez dit 5 ans pour la première édition?
Oui, 5 ans pour la première édition. Mais celle-ci, elle m'a demandé évidemment beaucoup moins de temps. Il a suffi d'ajouter les. Mais enfin, ça fait quand même pas mal de temps que j'y travaille, de manière à ce qu'il n'y ait pas besoin d'une troisième.
Parce alors,
que
bon, alors, avant d'aller plus loin dans le dans l'ouvrage lui-même, on va faire un petit retour en arrière, Paul Burgan, pour ceux qui prendraient le train en marche, tout simplement. Tout le monde ne vous connaît pas, hein, et puis savoir qu'est-ce qui vous a emmené, vous, Paul Burgan, à travailler sur la toponymie du Tarn-et-Garonne. Au départ, donc, vous êtes universitaire.
Bon, au départ, oui, je suis professeur de lettres classiques, c'est-à-dire français, latin et grec. Et à ce titre, hein, et surtout à l'époque où j'ai fait mes études, il y a très longtemps, les connaissances en linguistique générale pour cette formation étaient quand même assez pointues, hein, surtout à Toulouse où nous avions des enseignants très exigeants. Et ça, c'est une nécessité de départ, hein, connaître bien les problèmes de la linguistique, l'évolution phonétique, l'évolution sémantique des mots. Évidemment, la connaissance du latin, parce que bon, dans notre civilisation, faire sans le latin, ça paraît quand même assez improbable. Et j'avais un autre élément aussi que beaucoup de gens partagent avec moi, bien sûr, c'est la connaissance de l'occitan, parce que les toponymes dans nos régions sont tous en occitan, hein, c'est même pas quelques-uns. Ouais. Ils sont nés à l'époque où on parlait occitan, ou alors ils sont devenus occitans, en quelque sorte, par évolution naturelle, à partir de mots anciens. Mais il n'y a pas de toponyme, de macro-toponyme nouveau. Ce qui fait que quand le français est arrivé, tout était déjà en place. Ouais. La connaissance de l'occitan est donc une nécessité.
Quelques mots celtes aussi peut-être, non ?
C'est-à-dire que les Gaulois, les Celtes, ou enfin, tout ce qu'il y a eu avant, hein, que la partie celte comme la partie latine, a évolué phonétiquement jusqu'à arriver à l'occitan. C'est-à-dire que les mots occitans que nous avons, si on prend par exemple le nom occitan Lucami, qui a l'air bien occitan, qui est bien de chez nous, c'est un mot d'origine gauloise. Mais en gaulois, il se disait pas tout à fait Camille. Bon, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une évolution phonétique à partir du celte, hein, ou du gaulois, ou à partir du latin, qui a abouti de toute façon à l'occitan. Et c'est l'occitan qui est resté jusqu'à nos jours, hein, la langue de ces toponymes, on peut pas passer à côté. On est obligé de se servir de ça. Donc la connaissance de l'occitan était une nécessité. Et puis, ben, il s'est trouvé que j'ai pris la retraite à l'âge normal, il y a une dizaine d'années. Il y a 10 ans même exactement, et que j'avais là une plage de temps importante que je pouvais consacrer à des activités non lucratives, disons. Et je me suis lancé là parce que j'avais donc ce qu'il fallait pour pouvoir y travailler dessus et que ça m'intéressait quand même depuis pas mal de temps. Mais comme j'ai parlé tout à l'heure du temps qu'il fallait pour travailler là-dessus, il est évident que ce travail-là ne peut être fait que par des retraités. Bon, ça a l'air bizarre comme ça, mais du fait qu'on n'en retire ni gloire ni argent, personne ne s'amuserait de se consacrer à ça, en dehors évidemment de la petite dizaine de chercheurs universitaires qui sont payés pour travailler là-dessus. Sont très peu nombreux.
Et alors justement, cet ouvrage s'adresse à qui ? À ces chercheurs universitaires au plus grand nombre, au public.
Alors, il est très utile aux chercheurs universitaires parce que eux ne peuvent pas faire ce travail sur le terrain. Donc, ils sont bien contents quand quelqu'un le fait, si on peut dire, à leur place. Mais en revanche, bon, il est évident que nous n'avons pas travaillé dans ce but-là. Nous avons travaillé pour le grand public. Pour un public, mais de gens avertis, en ce sens que il y a 400 pages écrites petits. C'est pas un ouvrage qu'on lit comme ça, là, entre deux portes pour s'amuser ou dans le métro. Ça suppose quand même une certaine attention et aussi un certain intérêt. C'est-à-dire que ça s'adresse tout de même aux gens qui sont intéressés par la toponymie. Et par ailleurs, ça constitue un ouvrage de référence. C'est-à-dire que comme c'est un dictionnaire, on ne le lit pas comme un roman, hein. On va s'y référer chaque fois qu'on a envie de voir l'origine, la signification et l'histoire de mots. Ou alors, de temps en temps, en prenant comme ça, on va à la pêche, quoi, en quelque sorte. Mais c'est un ouvrage de type dictionnaire et non pas non pas quelque chose qui se lit d'un bout à l'autre sans interruption. Mais sinon, ça s'adresse à tout individu qui sait lire et qui s'intéresse à la toponymie. Il n'y a pas besoin de connaissances extraordinaires pour pouvoir le lire.
Qu'est-ce qu'on fait comment on passe le travail de justement du pour trouver l'origine du mot, par quoi ça passe? Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut aller sur le terrain. C'est un peu de logique, c'est un peu de...
Alors c'est d'abord de la linguistique, c'est-à-dire que...
Prenons Bressol, tiens, par exemple.
Bon, Bressol, alors d'abord on va chercher les formes anciennes pour voir si on peut se rapprocher le plus possible avec ces formes écrites du jour où le toponyme a été donné à ce lieu. Bien, plus on s'en rapproche, bien sûr, et plus on est sûr d'avoir la solution. Je ne vais pas parler de Bressol, je vais parler de Montauban. Nous avons la chance d'avoir la charte de création, dont nous avons vraiment un texte écrit qui est contemporain du jour où celui qui a donné le nom a décidé de lui donner ce nom-là. Bon, là, ça va tout seul, on est
donc
tranquille.
Là, c'est facile, ouais.
Alors, la plupart du temps, malheureusement, c'est pas comme ça. Pour Bressol, par exemple, les formes que l'on a sont postérieures, vraisemblablement, de, alors, 3, 4, 500 ans, au jour où le nom a été donné. Ça veut dire que, entre le moment où il a été donné et les premières formes qu'on a, il peut y avoir eu quelques modifications. Et c'est là qu'on entre dans l'hypothèse, et alors là, on va les contrôler, les vérifier avec tout le reste, c'est-à-dire avec la géographie, avec l'histoire locale, avec ce qui se passait à ce moment-là,
donc là,
la phonétique locale.
Vous devenez détective.
Un peu, oui, ça correspond effectivement. Ça, bon, il s'agit de créer un faisceau de preuves, un faisceau d'arguments à partir de tout ce qu'on a, et on accumule tout ça. Alors, en règle générale, fort heureusement, la plupart des arguments que l'on a ou des preuves que l'on a pu recueillir dans tous les domaines finissent par aboutir à une seule solution. Malheureusement, quelquefois, ça aboutit à plusieurs possibilités, et là,
il y a une part à la subjectivité, oui.
Dans certains cas, on est forcé de choisir un peu au feeling, on est forcé de choisir plutôt une chose qu'une autre, parce qu'on va considérer que tel argument, tel élément est plus important que celui qui va à l'encontre et qui est à côté. Bon, pour Bressol, les formes qui nous ont été données nous ont entraîné vers un nom commun qui désignait des broussailles, c'est la même famille que les broussailles, tout ce qui est broussailles, brossoles, broussoulettes, bon, tout ça, ce sont des mots qui sont assez connus, une famille de mots qui sont analogues les uns aux autres et qui vraisemblablement sont à l'origine de ce nom de Bressol.
D'accord, c'est un endroit où il y a de la débroussaille.
Oui, voilà. Mais ça, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup parce que les noms de lieux, avant de devenir des villages, ils ne l'étaient pas forcément. Bon. C'est-à-dire que quand un nom de lieu est créé, c'est qu'il s'est passé quelque chose de nouveau qui a transformé le lieu au point qu'on a besoin de lui donner un nom. Et alors ce nom, il est donné un petit peu en fonction de ce qu'on a envie de faire. Hein. Alors quelquefois, c'est en fonction de la géographie ou de la flore. Il y a un site qui est en friche, avec des broussailles ou avec une friche, quoi que ce soit. On va y mettre des habitations, on va débroussailler, on va défricher.
Mais si avant ça s'appelait la friche, si on avait l'habitude de l'appeler la friche,
ça va continuer de s'appeler la friche, bien sûr. Et en particulier Bressol, on garde le même nom, mais là, au lieu d'avoir une friche, on va avoir quelque chose d'habité. D'ailleurs, il y a beaucoup de noms de lieux, notamment dans les microtoponymes, qui désignent effectivement des friches. Hein. La Bouzigo, la Boudigo, la Boigo, par exemple, c'est une friche, et on en a un petit peu partout de ça.
Alors, combien de mots, combien de toponymes dans votre ouvrage, Toponymie du Tarn-et-Garonne, Paul Bergan?
Il y en a un peu plus de 500. Nous étions partis avec l'idée de faire les 195 communes, et puis il s'est avéré assez vite qu'il y avait des communes qui n'avaient de nom que administratif et qui en réalité ne correspondait pas au village réel. Je cite par exemple l'Honneur de Cosse a été créé donc à la Révolution comme un nom de commune, mais ça n'a jamais existé en tant qu'agglomération l'Honneur de Cosse. Il n'y a pas de village l'Honneur de Cosse. Il y a plusieurs villages parmi lesquels Leribosque, Loubéjac et Aussac qui constituent un ensemble que l'on appelle l'Honneur de Cosse. Donc on s'est vite aperçu que traiter de l'Honneur de Cosse tout seul n'avait pas de sens, qu'il fallait aussi traiter Leribosque, Loubéjac et Aussac. Mmh. Et à partir de là, est arrivé à l'idée que le mieux c'était encore de traiter toutes les anciennes paroisses qui jusqu'en 1790 ont constitué l'unité de base des agglomérations seulement dans le Midi bien sûr, mais dans toute la France. Nous avons ajouté à ça aussi un certain nombre d'abbayes par exemple ou de châteaux qui ont une importance capitale dans le département, Belle-Perche, Grand-Selve, Beaulieu, tout ça, et ça a fait donc un total d'à peu près 550.
Voilà, 550 toponymes regroupés dans Toponymie du Tarn-et-Garonne par Paul Burgan et André Lafont, un ouvrage que vous pourrez dédicacer. Vous répondrez aux questions de vos lecteurs mercredi soir, c'est
oui,
ça
après-demain, oui, à 19h au Scribe à Montauban.
Voilà.
Je serai également à Caussade en dédicace le 18 au matin à la Maison de la Presse.
Voilà, et puis on se fera l'écho dans nos rubriques infoservices de toutes les fois où vous signerez Toponymie du Tarn-et-Garonne. Merci
Paul Burgan. C'est moi qui vous remercie. On va accueillir.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir.